Et le journal vous est présenté par Adrien Taufolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Quasiment une semaine après la fermeture des frontières, c'est aujourd'hui qu'on peut en théorie espérer voir la situation se débloquer dans le sud de l'Angleterre. Les autorités britanniques annoncent que 4500 camions ont pu quitter le Royaume-Uni depuis la réouverture partielle mercredi. Pas moins de 10 000 tests ont été réalisés hier. Alors après avoir passé Noël dans des conditions spartiates, loin de leurs proches, stockés autour du tunnel sous la Manche et du port de Douvres, les derniers chauffeur devrait réussir à partir aujourd'hui, Grégoire Lecalot.
Il lui a fallu encore toute la journée d'hier à partir de 5h du matin. Mais Ludovic Cousin, chauffeur calaisien, a enfin pu accéder cette nuit aux navettes du tunnel sous la Manche. Il y a posé son camion et à 140 km/h, il est rentré chez lui après une semaine à vivre dans sa cabine sur le parking d'un transporteur anglais.
Ça fait du bien rentrer, là, pouvoir s'occuper de soi, là, parce que on n'a pas eu les douches avec nous. Hein. Ça fait du bien, si vous voir ta famille.
Les navettes d'Eurotunnel tournent jour et nuit, elles embarquent 2000 camions par 24 heures. Elles pourraient faire plus, dénonce Jacques Gonon, le PDG de Gatling, la société concessionnaire du tunnel sous la Manche. Il pointe du doigt les autorités britanniques mal organisées, selon lui.
Clairement, visiblement, ce qui bloque encore le retour des camionneurs, c'est le nombre insuffisant de tests. Le goulot d'entranglement, c'est clairement les tests effectués pour vérifier qu'il n'y a pas de cas positifs, ce qui ralentit l'arrivée des camions alors que nos navettes tournent et que la fluidité est totale sur le tunnel.
Les ferries ont aussi exceptionnellement pris la mer hier pour emmener à Calais les camions bloqués autour de Douvres. Le port français peut en accueillir plus de 3000 par jour. Le temps est encore long pour les routiers qui attendent, mais les autorités françaises et britanniques espèrent un retour à la normale dans les prochaines heures.
La nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus a traversé la Manche. Un premier cas de contamination a été détecté hier en France chez un Français à Tours. Mais résidant habituellement au Royaume-Uni. L'homme est asymptomatique et a été isolé à son domicile. On est à J-1 du lancement de la campagne de vaccination dans l'Hexagone avec les premières injections attendues dans les EHPAD des établissements de Sevran près de Paris et de Dijon auprès de personnes âgées volontaires pour recevoir les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNTech. La campagne pour les 7000 autres EHPAD de France ne démarrera réellement à grande échelle qu'en début d'année prochaine. En Centrafrique, à la veille des élections présidentielles et législatives, les groupes rebelles font de nouveau parler les armes. Hier, la trêve de 72 heures a été brisée avec plusieurs attaques qui ont fait, on l'apprend ce matin, 3 victimes chez les casques bleus, 3 militaires burundais appartenant à la force de maintien de paix de l'ONU, tués par des combattants armés non identifiés à Dekoa, dans le centre du pays. 2 autres soldats ont été blessés. Les rebelles menacent maintenant le président sortant et candidat à sa réélection, Faustin Archange Touadéra, de marcher sur la capitale Bangui, menace qui pèse de fait également sur la tenue des élections de demain. La coalition rebelle souhaite leur annulation. Le président Touadéra les maintient avec le soutien de la communauté internationale, France en tête. Leur tenue en tout cas ne signifiera pas le retour au calme, selon Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Si elle se tient, premièrement, ce ne sera pas une élection au suffrage universel, parce qu'il y aura beaucoup d'endroits en Centrafrique où les gens ne pourront pas voter. Et puis, donc ça ne sera pas une élection véritable. Elle risque de mettre de l'huile sur le feu plutôt que d'améliorer les choses. Du côté des internationaux et de ceux qui appuient le processus électoral, dont sans doute la France, on voit qu'ils sont pris un peu dans le piège centrafricain, dans la mesure où ils semblent appuyer une élection non démocratique. Et donc c'est tout le paradoxe de la chose, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de dire que faire une élection, c'est faire la démocratie. Or, faire une élection telle qu'elle se présente actuellement, c'est au contraire ne pas faire la démocratie.
Thierry Vircoulon de l'IFRI, il était l'invité hier du journal de 22h sur France Culture. Son interview est à réécouter en intégralité sur notre site. Au Niger, on vote également demain, élection présidentielle marquée par un respect des institutions. Le président Mahamadou Issoufou quitte le pouvoir conformément à la constitution après 2 mandats. Depuis son indépendance en 1960, le Niger a été marqué par un grand nombre de coups d'État. Le dernier a eu lieu en 2010. Le temps sera calme aujourd'hui. aujourd'hui, mais dominé par le gris et le froid, selon Météo France. Il n'y a qu'en Méditerranée que le soleil sera seul dans le ciel. Ailleurs, des nuages et même des averses sont à prévoir dès le matin en Bretagne et en Normandie. Perturbation qui s'étendra sur un arc allant de Nantes à Reims cet après-midi. Les températures minimales ce matin sont très fraîches. Moins 1 à Aurillac, Belfort et Gap, 0 à Tours et Chaumont, 1 à Tarbes, Alençon, Reims, 2 à Paris, La Rochelle et Strasbourg, 6 à Perpignan et Montpellier. Et cet après-midi, les températures évolueront entre 0 et 12 degrés, 12 en Corse bien entendu.